Bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre présence. Sur proposition de notre pasteur, je vais vous parler du livre de Job, qui expose un domaine qui nous touche la plupart d'entre nous, c'est la souffrance. Auparavant, je vais prier. Seigneur, avant de commencer cette étude sur le livre de Job, je me tourne humblement vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière, mais aussi pour te demander de régner en moi par ton Saint-Esprit pour que mes paroles et mes pensées soient conformes à ta sainte volonté. Amen. Alors, je vais commencer. Certains parmi nous ont récemment dû passer ou passent encore actuellement par des moments de difficulté, de souffrance, et ce, dans différents domaines tels que le deuil, la maladie, le chômage, etc. Et tous et toutes, nous sommes en train de vivre une situation très particulière, inédite, avec la guerre en Ukraine qui se prolonge, entraînant une crise économique et sociale due à l'inflation et provoquant des incertitudes quant à l'avenir pour nos projets, bref, pour notre vie. Pour aujourd'hui et les deux prochains mercredis consacrés à l'étude biblique, je vous propose de méditer brièvement le livre de la Bible qui occupe une place particulière dans ce domaine. Dans ce domaine, c'est celui de la souffrance. Et je veux parler du livre de Job. Ce livre contient 42 chapitres. Nous n'allons pas les analyser tous dans le détail, mais en dégager les enseignements principaux et voir ce qu'on peut en retenir pour notre vie. Le thème général du livre de Job est, comme je viens de vous le dire, la souffrance, l'épreuve. Et la vie de Job est là pour nous montrer comment essayer de pouvoir affronter cette souffrance. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le début de cette histoire de Job et en nous servant de son exemple concernant ses attitudes, son comportement et ses réactions, et voir ce que cela peut nous apporter lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Pour cela, nous allons commencer par lire les versets 1 à 5 du premier chapitre. Alors, il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux tour à tour pour donner un festin. Et ils envoyaient une invitation à leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Alors, dans ce passage, nous découvrons que Job était un homme intègre et droit. Malgré cela, il nous faut d'emblée écarter l'idée de dire que Job ait été exempt de toute faute, car à part Jésus-Christ, aucun homme ne l'est. D'ailleurs, au moment où il défend avec le plus de vigueur son innocence, Job reconnaît qu'un homme ne saurait être juste que s'il voulait discuter avec Dieu, il ne pourrait donner une seule réponse sur 1000 et qu'il dépend de la grâce du juge divin. Nous allons lire Job au chapitre 9, versets 2, 3 et 15. Alors, au verset 2, il dit « En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur mille. Quand je serai juste, je ne répondrai pas, j'implorerai la grâce de mon juge. » Comme quoi Job reconnaissait qu'il n'était pas parfait. Alors, Job était un homme intègre. Qu'est-ce qu'être intègre ? Être intègre, ce n'est pas être parfait, mais c'est avoir un caractère entier. C'est le contraire d'un cœur partagé. C'est avoir une attitude complètement soumise à Dieu. C'était également un homme droit. La droiture, c'est davantage que la sincérité. On peut être sincère et complètement faux dans l'erreur. La droiture, c'est l'art de s'engager au moment voulu dans la bonne direction, sur la voie droite, celle de la volonté divine. Cette intégrité et cette droiture de Job sont confirmées par une attitude de soumission au Seigneur. Il craignait Dieu, est-il écrit. La crainte de Dieu n'est pas la peur servile qui redoute un châtiment qui porterait le croyant à se cacher devant la face de Dieu, comme l'ont fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden après avoir péché. Mais c'est un sentiment de respect dans la foi et l'amour que l'on peut traduire par fidèle à Dieu. Il est également écrit qu'il se détournait du mal. Nous avons par là la confirmation de la crainte de Dieu, car nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Si on s'attache au Seigneur, alors en principe, on veut réprouver le mal. Par ses attitudes, Job est-il réellement un exemple pour nous ? Je veux dire par cette question, sommes-nous comme lui intègres et droits ? Est-ce que nous craignons Dieu en nous écartant du mal ? Réfléchissons un instant. N'y a-t-il pas souvent de la façade dans nos paroles ou même dans nos actions ? Malheureusement, je crois que c'est le cas. Alors, frères et sœurs, corrigeons-nous en pensant à Job. Ne soyons pas comme ceux qui veulent paraître, faire croire que. Ne soyons pas comme ceux qui font des compliments alors qu'ils pensent tout le contraire, comme ceux qui rouspètent sur quelqu'un et qui a très bien agi par jalousie parce qu'ils n'ont pas eu la même idée avant. Enfin, ne croyons surtout pas que l'honnêteté et la droiture soient des vertus uniquement chrétiennes, et heureusement, mais sachons, et c'est un comble, que des chrétiens ne les pratiquent pas et soient fourbes. Quant à la crainte de Dieu, c'est donc le respect profond pour lui, pour sa personne, pour son nom, la crainte de pécher contre lui et de le décevoir ou l'attrister. C'est la révérence profonde pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et signifie. Avons-nous cette crainte de Dieu, ce profond respect pour lui ? Si oui, alors on s'écartera du mal. Et l'inverse est vrai aussi. Si on cherche et pratique le mal au lieu de s'en écarter, alors on prouve que l'on n'a aucun respect pour Dieu, que l'on se fiche de ses commandements et de sa volonté. Puis, au verset 2, on nous parle de sa famille. Il avait 7 fils et 3 filles, des chiffres symboliques de perfection. Au verset 3, nous découvrons sa richesse. Il possédait 7000 brebis, soit 7 fois 1000, toujours la perfection, et 3000 chameaux, soit 3 fois 1000, ainsi que 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Bref, c'était un homme comblé. C'était l'homme le plus important de tous les fils d'Orient. C'est écrit au verset 3b. C'était donc vraiment quelqu'un, une sommité dans l'Orient antique. Apparemment, la vie de cette famille était exemplaire, unie et heureuse. Les frères s'invitaient régulièrement, peut-être pour des anniversaires, et leurs sœurs, sans doute non mariées, était toujours de la partie. Et c'est au verset 5 que l'on voit pour la première fois manifester très pratiquement dans le quotidien de la vie ce qui était dit sur Job au verset 1, à savoir son intégrité, sa droiture, sa crainte de Dieu et son désir de s'écarter du mal. Si on peut relire le verset 5 du chapitre 1, alors je vais le lire. « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, Job, c'est lui le père qui envoyait chercher ses enfants dont il s'en souciait. Il les sanctifiait, nous dit le texte, à cause des fautes qu'ils auraient pu commettre. On ne sait pas comment il le faisait, sans doute par une cérémonie de purification, en tout cas avec des sacrifices, notamment un holocauste qui est l'offrande la plus coûteuse, car la victime était entièrement consumée. Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Notons à ce propos la conscience aiguë de Job. Il pensait que ses enfants avaient peut-être offensé Dieu dans leur cœur, et peut-être même inconsciemment. Job pensait que ses fils et filles pouvaient pécher en mangeant ou buvant trop, comme lors d'orgies par exemple, mais aussi qu'ils pouvaient pécher dans leur fort intérieur. Il se rendait compte que le jugement de Dieu ne s'applique pas seulement aux actes et aux paroles, mais aux intentions secrètes, et que c'est jusque dans ce domaine intime qu'il convient d'être sanctifié. Alors, frères et sœurs, sans pousser à l'extrême cette notion de péché intérieur et avoir toujours peur d'avoir offensé Dieu en faisant presque une obstination, je pense qu'il est bon de demander pardon à Dieu pour les péchés dont nous nous sommes peut-être pas rendus compte. Ne nous est-il jamais arrivé d'avoir blessé quelqu'un sans que nous nous en soyons aperçus, soit par des paroles dites en l'air, ou une attitude distante ou froide, ou alors que nous pensions tout simplement à autre chose en rencontrant cette personne, ou que nous étions en souci pour quelque chose. Péché par omission, c'est pour cela que Job a demandé pardon, pas pour lui-même, mais pour ses fils. Cela montre sa responsabilité et sa responsabilisation en tant que père de famille, ainsi que son altruisme. Et au verset 8, Dieu a un qualificatif très élogieux pour Job. Il l'appelle « mon serviteur Job ». Il n'y a personne comme lui sur la terre. Peu de personnages dans la Bible sont dénommés ainsi. Il y a Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, David et certains prophètes, et finalement le serviteur suprême, Jésus, qui est cité comme serviteur en Ésaïe chapitre 42, verset 1. C'est merveilleux d'être appelé ainsi par le Créateur. Dieu est fier de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre, dit-il. Et c'est parce que Dieu a tellement confiance en Job, son serviteur, qu'il ose lancer ce fameux défi au diable. C'est marqué au verset 12 que je vais vous lire. Alors, le verset 12, « L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Voilà. Donc, Dieu a lancé un défi au diable en lui permettant de le frapper d'abord sur ses biens et ses proches, puis ensuite même sur sa propre santé. Job, chapitre 2, verset 6, il est marqué, « L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » En cela, Job est une figure imparfaite, certes, de celui qui sera vraiment différent de tous les humains, tout en étant homme dans le plein sens du terme, à savoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dieu, est-il fier de vous, de moi? Peut-il avoir confiance en vous et en moi? Sait-il et pourra-t-il compter sur vous, sur moi, comme il a su compter sur son serviteur Job? Et pourrais-je être appelé serviteur de Dieu, qualificatif qui n'est pas réservé aux pasteurs ou à ceux qui travaillent à plein temps dans l'œuvre du Seigneur? Et ce verset 5 au chapitre 1 conclut ainsi ce paragraphe. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. À présent, après avoir vu que Job était intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal, et avant d'analyser dans une autre étude ce qui s'est passé dans le ciel entre Dieu et Satan, qui est tout le problème du mal, de la souffrance, nous allons nous intéresser, pour terminer, aux réactions de Job face à la souffrance. Incroyable tout ce qu'a vécu ce pauvre Job. D'abord, on lui enlève toutes ses richesses et ses possessions, finalement toute sa raison de vivre. Puis on lui enlève même ses 10 enfants, tués par une tornade qui a écroulé la maison dans laquelle tous étaient réunis pour une fête comme ils en avaient l'habitude. Et enfin, même sa propre santé est atteinte avec un ulcère malin qui va de la plante du pied au sommet de la tête et le fait souffrir atrocement, au point de devoir prendre un tesson de poterie pour se gratter. Et pour couronner le tout, sa propre femme, au lieu d'être à ses côtés et de l'encourager et le consoler, l'enfonce un peu plus en le tentant de maudire Dieu avant de mourir. Voilà pourquoi il existe cette expression en français « pauvre comme un Job ». Alors, que fait-il après toutes ces épreuves? D'abord, il se lève en signe de respect, puis il déchire son manteau et se rase la tête en signe de deuil, n'oubliant pas qu'il a perdu 10 enfants en une fois. Ensuite, il se jette par terre en signe d'humiliation. Après que tous les malheurs se soient abattus sur lui, Job s'abat donc à son tour. Cela montre que la douleur de Job était vraiment authentique. Il n'était pas un stoïcien insensible, mais un homme de chair et de sang, ressentant vivement l'épreuve, et c'est pour cela que nous pouvons très bien nous identifier à lui quand nous souffrons. Il n'est pas un surhomme, un superman spirituel, il a réellement énormément souffert. Et enfin, il se prosterne devant Dieu, nous dit le verset 20b. Et il adore Dieu, nous dit le verset 21. C'est là la meilleure antidote au désespoir. Et pourtant, peu nombreux sont ceux qui suivent son exemple dans pareilles circonstances. Mais loin de moi de leur jeter la pierre. Après s'être prosterné, Job déclare « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de ma mère. » Cette affirmation sous-entend que, d'une certaine manière, tous les hommes sont égaux à la naissance, même s'ils ne sont pas tous bénéficiaires ou victimes des mêmes hérédités, même s'ils sont favorisés ou défavorisés dès le premier jour par l'environnement qui les attend. Et ils sont aussi tous égaux devant la mort, le rendez-vous de tous les vivants, comme l'a écrit André Taubois dans un livre consacré à la mort. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attacher indûment aux avantages de la terre. Comme c'est écrit en 1 Timothée chapitre 6, versets 7 et 8, en Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, et en Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Ensuite, Job affirme « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ». Cette phrase, si admirable et si connue de Job, ne peut que nous interpeller. Tout ce que nous avons est un cadeau fait par Dieu, même ce qui est le produit de notre labeur, car sans la bénédiction divine, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain, et celui qui garde la ville veille en vain, nous dit le psaume 127, verset 1. Oui, ce que Dieu nous donne, il le prête en fin de compte. Et donc, il a tout loisir de le reprendre, de l'ôter. C'est ce que Job a dit, ce que j'ai dit précédemment par la voix de Job. Effectivement, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Seul le salut de Dieu en Jésus-Christ constitue pour nous un bien inaliénable. Il y a ici une petite question que nous pouvons nous poser. N'est-ce pas le diable qui avait enlevé ses biens et les membres de sa famille? Pourquoi donc dit-il que c'est Dieu? Oui, c'était bien l'adversaire qui avait fait cela, mais en vertu de la latitude que le Seigneur lui avait laissée. Il faut donc faire une distinction entre ce que Dieu décrète et ce qu'il permet. En tout cas, il est plus rassurant de savoir que les circonstances les plus tragiques de la vie sont permises par un Père infiniment compatissant plutôt que décrétées par un adversaire si pernicieux et sadique. Enfin, Job termine en disant « Que le nom de l'Éternel soit béni ». C'est Job, chapitre 1, verset 21c. En hébreu, le nom désigne la personne entière. Et ce qui est formidable, c'est que Job fait le contraire de ce que le diable escomptait. Bien loin de maudire Dieu, Job bénit le Seigneur. Quand Dieu bénit un homme, il lui communique une grâce. Quand les hommes bénissent Dieu, il proclame qu'il est la source de toutes les grâces. En Job, chapitre 1, verset 11, Satan avait comme argument devant Dieu de dire que si Job était intègre et droit, s'il était un exemple d'honnêteté, c'était parce qu'il était comblé de biens de la part de Dieu, donc intéressé dans une sorte de donnant-donnant. Tu me bénis, donc je vais être fidèle. Mais là, nous voyons bien que Satan a raté son coup. Car en Job, chapitre 2, verset 5, Satan dit alors à Dieu que tant que le propre corps de Job ne sera pas atteint, c'est normal qu'il ne veuille pas maudire Dieu. Mais si cela était le cas, alors il le ferait. Mais en Job, chapitre 2, verset 10, nous voyons qu'il va dans le même sens que la déclaration qu'il a faite en Job 1, 21. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Il confirme par là d'autres passages de l'Écriture qui vont dans le même sens. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dit Amos au chapitre 3, verset 6. Ou bien, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs? Que sortent les malheurs et le bonheur? Est-il écrit en Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 38. Frères et sœurs, est-ce que vous bénissez le Seigneur en tout temps, en ayant sa louange toujours dans votre bouche, comme le dit le psaume 34 au verset 2? Vous allez me dire, plus facile à dire qu'à mettre en pratique, je vous le concède. Alors un petit conseil que j'ai entendu une fois dans une prédication, chaque fois que vous êtes soit en colère, soit contre quelque chose ou quelqu'un, soit que vous êtes frappé par une épreuve quelconque, eh bien essayez, je dis bien essayez, de bénir malgré tout le Seigneur pour tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Tout ce dont vous pouvez être reconnaissant envers Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand, dit à propos le cantique. Et puis, soyons encouragés par ces versets nous parlant de Jésus. Comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Ainsi que, nous avons été tentés en tout point comme nous, Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans connaître le péché. Approchons-nous donc avec assurance de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. En conclusion, je dirais que Job est un exemple pour nous, car en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Est-il écrit en Job chapitre 1, versets 22 et chapitre 2, verset 10. Frères et sœurs, à nous de mettre en pratique cela dans le quotidien en nous inspirant de Job, y compris et même pendant cette période si troublée que nous traversons, et que nous sommes en train de traverser. Comme lui, faisons confiance en Dieu, appuyons-nous sur lui. Amen.